Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous accompagner jusqu'à 14h au programme. Pas mal de vadrouilles, de rencontres, de reportages. On écoute le monde changer dans les carnets du monde. Avec un gros plan d'abord sur Diego Maradona, mort mercredi, enterré jeudi et salué dans le monde entier. Maradona n'était pas qu'un joueur de foot, c'est l'homme engagé qu'on va évoquer ensemble avec nos correspondants et avec un ancien de la maison, Pierre-Louis Basse, qu'on appelle dans un instant. Puis nous irons au Brésil, où un homme a été battu à mort dans l'enceinte d'un supermarché Carrefour. Il était noir, c'était la veille de la journée de la conscience noire dans le pays, une communauté qui représente plus de la moitié des Brésiliens et qui exprime sa colère dans la rue. Nous appellerons aussi le numéro 2 de Carrefour au Brésil qui met en place une batterie de mesures contre la discrimination et le racisme systémique. Je vous emmènerai aussi à Beyrouth, presque 4 mois après l'explosion qui a détruit une partie de la ville. L'écrivain Sharif Majdalani sera en ligne avec nous pour évoquer ces crises multiples dont le Liban n'arrive pas à se sortir. Un livre nous fera voyager sur l'île de Monte Cristo et pas celui que vous croyez. Quant à Joseph Chovanec, il nous emmènera sur des chemins secrets, des chemins de contrebande. Les carnets sont ouverts. Direction Buenos Aires, là où Maradona est né et où il repose.
Europe 1, les carnets du monde.
On en parle.
La crise sanitaire a fait émerger de nouveaux comportements que l'on retrouve dans les recherches internet des Français. On en parle par téléphone avec Mélanie Gancel, analyste des tendances de recherche chez Google. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Alors apparemment, ce sont les recherches locales qui ressortent le plus, c'est ça ?
Oui, tout à fait. En fait, depuis le début de la crise sanitaire, les Français utilisent Google pour entrer en contact avec les commerçants près de chez eux, et notamment ceux qui offrent des services de vente à emporter, de livraison à domicile, ou bien le click and collect.
Ah oui, c'est intéressant. Et quelles sont les autres tendances qui vous marquent particulièrement ?
Alors, on observe une forte progression des recherches comme produits locaux ou circuits courts. Il y a les recherches fabriquées en France aussi, qui ont doublé par rapport à l'année dernière.
Et alors, quels sont les enseignements que vous en tirez ?
Je pense que le moteur de recherche, c'est un reflet de la manière dont les Français s'adaptent. Et ce que montrent toutes ces recherches, c'est l'importance pour les commerçants d'être présents sur Internet, de tenir informés leurs clients et de pouvoir garder un lien bien réel avec eux.
Eh bien, merci beaucoup Mélanie.
On en parle.
Alain Flelou, vous venez de créer un service inédit et en plein confinement. Racontez-nous.
J'ai créé un service de voiturier à domicile pour toutes ces personnes qui souhaiteraient se faire dépanner ou faire un essai d'aide auditive sur prescription médicale. Nous vous envoyons une voiture pour faire un aller-retour entre le domicile et le centre gratuitement et sans obligation d'achat.
Merci Alain Flelou. Service valable jusqu'au 31 décembre 2020 pour un seul aller-retour dans un rayon de 10 km. Conditions en magasin et sur alainflelou-acousticien.fr. Dispositif médical CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
L'émotion est planétaire depuis mercredi dernier, depuis que Diego Maradona s'est éteint à 60 ans. Maradona, d'abord légende du foot, bien sûr, mais pas seulement. C'est un personnage à multiples facettes. Et dans les carnets aujourd'hui, c'est l'homme engagé qu'on évoque politiquement et sur le plan social. Et c'est vrai d'abord dans son pays, l'Argentine. Bonjour Audvilliers Moriamé.
Bonjour Sophie.
Correspondante d'Europe 1, vous êtes à Buenos Aires, qui vient de vivre 3 jours de deuil national. Des milliers d'Argentins sont venus dire au revoir à leur idole. Et ce qu'on sait peu en France, c'est que Maradona était aussi très connu et apprécié pour ses engagements politiques et sociaux en Argentine.
Absolument, et c'est quelque chose d'ailleurs que les Argentins que j'ai rencontrés ces derniers jours citent très rapidement lorsqu'ils évoquent la mémoire de celui qui était surnommé le Pibe de Oro, le gamin en or. Écoutez par exemple ce qu'en dit Théo, 22 ans.
On ne peut pas voir Maradona uniquement comme un footballeur. Maradona a représenté bien plus que ce qu'il se passait dans un stade de foot. C'est un homme qui est sorti de la pauvreté et qui n'a jamais oublié ses origines.
Alors Maradona est né en 1960 dans un quartier pauvre, Villa Fiorito, dans le sud de Buenos Aires. Il venait d'une famille humble de 8 frères et sœurs. Il a incarné en fait pour beaucoup ce rêve des enfants pauvres de sortir de la misère grâce au ballon rond. Beaucoup de fans soulignent encore son esprit solidaire. Récemment, il avait donné de l'argent à des soupes populaires pour les familles durement touchées par la crise économique que subit l'Argentine depuis 2 ans. Maradona avait aussi apporté son soutien à un projet de taxe sur les grandes fortunes discuté en ce moment même au Parlement.
Le footballeur soutenait aussi les droits de l'homme en Argentine.
Oui, on a beaucoup vu Diego Maradona aux côtés des mères de la place de Mai, ces femmes qui cherchaient leurs enfants disparus durant la dictature militaire entre 76 et 83. Il était aussi très proche des grands-mères de la place de Mai, qui recherchent toujours les bébés volés aux prisonniers politiques disparus. Pour Maradona, ces femmes incarnaient le combat pour la mémoire de la dictature en Argentine, un soutien de poids aux yeux d'Agustina, militante féministe de 24 ans.
Diego incarnait l'amour et le peuple. Il était toujours du côté de la société, du bon côté. On a vécu une dictature militaire qui a provoqué la disparition de 30 000 camarades. Et lui, il a toujours été engagé de notre côté, avec nous.
Et les grands-mères de la place de Mai ont rendu hommage à Maradona. Nous lui disons au revoir au Diego du peuple, celui qui réparait les injustices et la douleur d'autrui.
Politiquement, Aude, Diego Maradona se déclarait péroniste, c'est un mouvement politique capital en Argentine.
Et oui, le péronisme, c'est ce mouvement créé par Juan Perón dans les années 40, mouvement indéfinissable selon nos critères européens, à la fois de droite et de gauche, et qui a vraiment eu 1000 visages en Argentine, selon les gouvernements au pouvoir, mais qui se distingue par sa rhétorique nationaliste et populaire, un certain populisme et la défense d'un État fort. Écoutez comment Ezequiel, 32 ans, définit le péronisme.
C'est le changement social, la transformation, la lutte pour que les plus démunis obtiennent davantage. L'engagement social de Diego, c'était la meilleure facette de sa personnalité. C'était un camarade. J'ai apporté une petite photo que je vais laisser sur son cercueil.
Et pas n'importe quelle photo, celle d'Evita Perón, la deuxième épouse de Juan Perón, idole absolue en Argentine, peut-être tout autant que Maradona. Elle a été emportée par un cancer à 33 ans dans les années 50. Alors Maradona appartenait certainement à l'aile gauche du mouvement péroniste et il a été très proche de certaines figures de la gauche latino-américaine comme Fidel Castro à Cuba, qu'il avait qualifié de second père, ou encore Hugo Chavez et son successeur Nicolas Maduro au Venezuela. Un ancrage qui lui a valu des critiques dans le passé, mais malgré tout, l'éloge de la classe politique argentine ces derniers jours est presque unanime, et c'est très rare dans ce pays d'ordinaire très divisé. Quelques voix dissonantes tout de même, celle de certaines militantes féministes qui rappellent que Diego Maradona avait eu son lot de déclarations sexistes et qu'il a aussi été accusé par deux de ses ex-compagnes de violences psychologiques et physiques.
Aude Villiers-Moriamé depuis Buenos Aires. Merci beaucoup Aude, à bientôt.
Merci Sophie, à bientôt.
Les engagements de Diego Maradona, qui de mieux pour nous en parler que Pierre-Louis Basse. Hola amigo.
Hola. Hola, hola Sophie.
Vous avez longtemps couvert le sport et la culture sur Europe 1, Pierre-Louis, et vous avez interviewé Maradona deux fois, je crois. Certains de ses engagements, qu'Aude vient d'évoquer, étaient gravés sur le corps de Maradona. Il avait un tatouage du Che sur le biceps droit, le visage de Fidel Castro sur le mollet gauche. Il assumait des positions anti-impérialistes, anti-américaines, ce qui était finalement assez peu courant dans le monde du ballon rond.
Ouais, c'est inséparable de Maradona, vous savez. C'est au sens où Borges disait en Argentine, l'écrivain, la fiction, le rêve peuvent exister quand un gamin sort d'un endroit où il n'y avait ni l'électricité, ni l'eau, dans cette petite cabane du sud de Buenos Aires. Et Maradona, Diego Maradona, n'a jamais oublié. Quand il va, par exemple, en Algérie, en effet, il retourne, il avait joué avec les moins de 20 ans en 79, il retourne en 2013 et il rend hommage au FLN et au combat de libération. Ça n'était pas rien, ça n'était pas du folklore. Maradona est un homme qui a toujours, toujours défendu les causes des déshérités, des laissés pour compte. Et au nom de quoi ? Parce que Maradona serait celui qui, non seulement avait un ballon à la place du cœur, mais prenait aussi de la cocaïne. Au nom de quoi faudrait-il dire ah oui, il était aussi copain des dictateurs de gauche. Mais écoutez, pardonnez-moi Sophie, c'était mieux avec Batista à Cuba quand les putes et les mafieux se rendaient avant la révolution en toute liberté. Ouais. Alors on peut tout critiquer, mais Maradona était fidèle à cette gauche-là, oui.
Il est mort 4 ans jour pour jour après la mort de Castro, c'est vous qui me l'avez fait remarquer quand on a préparé cette émission. On a évoqué souvent, Pierre-Louis, la rivalité Maradona-Pelé, le roi Pelé du grand voisin Brésil. Eh bien, je vous propose d'écouter un témoignage, même pour les Brésiliens, dans ce match. Quand il s'agit des idées, il n'y a vraiment pas photo. Écoutez, Luciano, 43 ans, prof à Sao Paulo.
J'ai plus de sympathie pour Maradona. Il a été un leader pour ma génération. J'ai grandi dans l'Amérique latine des années 90, avec le néolibéralisme grandissant, l'explosion des inégalités. Et vous voyez un leader sportif qui se positionne. Ça, c'est rare au Brésil. Maradona était sensible aux questions sociales. Il soutenait les chefs d'État sud-américains qui luttaient contre la pauvreté. Alors que Pelé était incroyable comme joueur, mais dès qu'il parle, parle, j'ai honte qu'il représente mon pays. Je n'ai pas oublié que quand un joueur du club de Santos, le club où il a commencé, a été victime de racisme pendant un match au sud du pays, c'était un gardien de but, il s'appelait Araya. Pelé, dans une interview, a dit qu'Araya ne devrait pas parler de ce sujet, que c'était normal et que plus on parlait du racisme, plus on le faisait exister. Romario, quand Pelé l'avait critiqué publiquement et gratuitement, a déclaré « Pelé, quand il se tait, c'est un poète ». Et tout le monde se souvient de cette phrase. Et à chaque fois que Pelé s'exprime, on se souvient de cette sortie de Romario.
Voilà Luciano avec Marino Dacher au Brésil. Alors Maradona, vous le disiez, Pierre-Louis Basse, hein, c'était un gamin des rues d'origine très modeste. Vous l'aviez interviewé en janvier 1995 quand il venait de recevoir le Ballon d'Or et il vous avait expliqué qu'il avait tenu à garder la maison où il avait grandi à Buenos Aires.
Oui, il avait tenu à garder cette maison parce que on n'est pas là dans la honte ou dans celui qui tourne le dos à quelque chose qui l'aurait marqué. Il avait un amour immodéré pour sa maman qui faisait des ménages et qui l'aidait tout de même. Mais je voudrais ajouter sur ce qu'on vient d'entendre, si vous me le permettez, Sophie, sur le Maradona à la différence de Pelé. C'est si vrai que Maradona a échappé à ce qu'ont été des hommes comme Jesse Owens, le très grand coureur américain qui avait été manipulé, voyez-vous, après 36 et qui était devenu finalement un noir blanc aux mains des grandes industries, tout comme Pelé avec représentant homme sandwich des cartes Visa internationales. Eh bien, Maradona, c'était pas ça. Maradona s'est toujours défié de l'industrie du sport. Il l'a payé. J'étais en 94 aux États-Unis où je l'avais encore rencontré. Il a été littéralement exécuté par la FIFA pour avoir critiqué de faire jouer les joueurs sous le soleil.
Pierre-Louis, c'est pour ça qu'il se sentait si bien à Naples ?
Alors oui, quand on sait ce que Naples est encore aujourd'hui devenu, il suffit de lire les livres de Roberto Saviano ou de voir les films, Gomorra, son dernier film, et de voir la situation sanitaire avec la Covid, où les Napolitains souffrent et où des associations... C'était déjà le Naples qui souffrait et Maradona était cette figure au plus proche du petit peuple italien, comme disait le journaliste Henri Barbus.
Alors les Napolitains n'ont rien oublié de cette facette du personnage Maradona et ils l'ont dit ces jours-ci à Blandine Hugonnet. Écoutez.
Ici, on dit dans le quartier populaire espagnol que Maradona venait le soir. Il était très généreux et aidait les habitants qui avaient des problèmes d'argent directement, comme ça, de la main à la main. En silence, il faisait le bien. Il avait le cœur sur la main. C'était quelqu'un d'humble.
Diego Armando Maradona, c'est aussi une figure qui a rendu son honneur et sa fierté à Naples. Parce qu'il nous a sauvés à tout point de vue, pas seulement dans le foot. Il a tout de suite pris la défense des Napolitains quand les autres zones du pays continuaient de nous dénigrer.
Maradona a réussi à faire en sorte que Naples se relève et relève la tête. Rien que pour ça, on ne l'oubliera jamais. C'est un saint.
On entend cette fierté hein, dont ils lui sont redevables. C'est le petit peuple dont vous parliez, Pierre-Louis. Ses engagements de toute une vie le ramènent toujours à l'enfant qu'il était resté, en fait.
C'était le génial enfant qui aura finalement toujours mis ses doigts dans le pot de confiture. C'était un enfant, je l'ai vu à Naples, se rouler dans l'herbe avec le ballon. Il était le ballon et d'ailleurs, son surnom, c'était Pelucha. La peluche, voilà, il était resté un enfant. La dernière image que j'ai de lui, elle est à Rome, après la finale en 90 contre l'Allemagne perdue, dans le bus, j'ai la chance d'être en bas, et il pleure encore comme un enfant.
C'est ce côté romanesque de ses engagements, et puis les nombreux excès aussi dont on n'a pas parlé aujourd'hui qui font de Maradona un personnage à part. Merci beaucoup Pierre-Louis Basse, d'avoir partagé vos souvenirs avec nous. Merci, et puis je vous dis portez-vous bien.
Oui, tout va bien.
À bientôt.
Hasta la victoria siempre.
Ah là, c'est ça. Merci Pierre-Louis.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Ça s'est passé il y a 10 jours dans un supermarché Carrefour de Porto Alegre au sud du Brésil. Un homme noir de 40 ans qui s'appelle João Alberto a été battu à mort par un vigile et un policier militaire. La scène a été filmée et a déclenché des manifestations dans plusieurs supermarchés Carrefour dans les jours qui ont suivi. Bonjour Marino Dacher.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante au Brésil. Cet assassinat a beaucoup choqué dans le pays, en particulier la communauté noire. Il faut dire qu'en plus, il a eu lieu la veille de la journée de la conscience noire, journée qui est célébrée chaque 20 novembre au Brésil. Marie, vous avez rencontré ces jours-ci des Brésiliens, des Brésiliennes en l'occurrence, qui raconte ce qui est en jeu à travers cet épisode très violent.
Oui, parce que beaucoup estiment que la cruauté de cette scène n'est pas un hasard et qu'elle est révélatrice d'un contexte et d'une réalité bien ancrée dans la société. C'est ce que vit au quotidien, par exemple, Bia Moremi, qui vient d'une famille de classe moyenne du centre de São Paulo. Elle valorise ses longs cheveux crépus depuis toute petite, mais ce qu'elle décrit du racisme en tant que femme noire à la peau claire, comme elle se définit, c'est une autocensure solidement ancrée en elle et qui a fini par laisser place à autre chose, car elle vient de créer une agence de voyage pour les Afro-Brésiliens qui s'appelle Brafrica.
J'ai un frère, un homme noir de 23 ans. On lui a toujours dit « Aie tous tes papiers sur toi, reste attentif ». C'est une question de comportement. Lors d'un contrôle de police, dit « Oui, monsieur ». C'est un autre type d'éducation. Et pour les femmes, c'est de la prévention. Je n'entrais pas dans certains magasins parce que j'avais compris que je n'étais pas la bienvenue. Mon corps n'était pas bienvenu. Si je sortais avec un garçon d'une autre classe sociale, j'anticipais les moqueries. Ah, voilà la fille de la domestique. Et je m'empêchais de vivre certaines choses. On ne se donnait pas la main dans la rue. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus libre. Je m'habille comme je veux. Et j'arrive à m'imposer face à un regard insistant. Je demande « Votre regard me dérange. Il y a un problème ?»
Voilà, l'autocensure, puis l'acceptation que le fait d'être noir ne doit pas la brider.
Oui, cette prise de conscience de sa négritude, selon le terme employé ici au Brésil, beaucoup de femmes la racontent, des vies marquées par des épisodes plus ou moins violents et traumatisants. Voici une autre femme, une élue, Luana Alves, 27 ans, une coupe afro et plus de 37 500 voix au municipal. Elle est donc l'un des nouveaux visages de ces afro-brésiliennes qui entrent en politique ce mois-ci comme conseillère municipale pour le parti Socialisme et Liberté, le PSOL, classé à gauche.
À chaque mort d'un jeune des périphéries, des favelas, il y a souvent des révoltes de rue, des autobus brûlés. Mais la répression est gigantesque. Ce qui s'est passé avec João Alberto n'a eu cette répercussion que parce que ça a été filmé. Les salles de contrôle des supermarchés, qui n'ont pas de caméras, sont des lieux de torture dans tout le Brésil. C'est une expression de la criminalisation du corps noir, du corps des pauvres. Le racisme ne va disparaître que si la structure entière du Brésil change. Si vous enlevez la carte racisme du château de cartes qu'est le Brésil, tout s'effondre. Nos sociétés économiques, sociales, culturelles, depuis que le Brésil existe, est basée sur les inégalités raciales. Mais je crois qu'il existe des mesures pour améliorer la vie des Noirs. La mairie doit punir les entreprises qui ont des pratiques racistes. La première punition, c'est de résilier tous les contrats de la dite entreprise avec le secteur public. Mais ce n'est pas tout, il faut des amendes. C'est cela qu'il faut faire. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourtant, il suffirait de changements très simples dans la loi.
Alors Luana Alves sent qu'à l'image des révoltes de Minneapolis aux États-Unis après l'assassinat de George Floyd, il se passe quelque chose au Brésil en ce moment, mais avec la pandémie, l'explosion du chômage, la peur du lendemain, difficile de se mobiliser. Et puis il y a ce mythe de la démocratie raciale qui est aussi bien ancré dans les mentalités.
Vous voulez dire que les gouvernants ferment les yeux, qu'ils nient le problème ?
Exactement. Juste après la mort de João Alberto chez Carrefour, le président Bolsonaro a dit « Je suis daltonien, tout le monde a la même couleur ». Et puis son vice-président « Il n'y a pas de racisme au Brésil ». Alors j'ai rencontré une militante, Julia Neiva. Elle est coordinatrice chez Conectas, une ONG qui défend les droits de l'homme au sein des entreprises. Elle aimerait que João Alberto soit le dernier noir assassiné par des vigiles ou des policiers. Mais pour elle, la création d'un fonds de 25 millions de reais, presque 4 millions d'euros par Carrefour pour lutter contre le racisme, ne va pas dans le bon sens.
Non basta apenas un plan.
Un fonds avec de l'argent, ce n'est pas suffisant. Il faut revoir toutes les façons de faire avec les fournisseurs et que le racisme soit inacceptable à toutes les étapes de la chaîne de production de l'entreprise. Ce drame nous montre que ce n'est pas mis en pratique. Par exemple, il faut des femmes noires, des noms blancs aux postes à responsabilité. Souvent, les salaires sont très bas, donc il faut des salaires dignes à tous les échelons. Mais c'est très dur de responsabiliser les personnes juridiques, les entreprises, pour violation des droits de l'homme au Brésil. On aurait dû se mobiliser davantage, exiger le départ du PDG.
Et le racisme n'est plus seulement une lutte réservée aux Noirs, les Blancs sont en train de le comprendre. Le mouvement nord-américain Black Lives Matter a même soutenu sur Twitter la lutte des siblings, des frères brésiliens. Sur l'avenue Paulista, il y a quelques jours, les grandes lettres blanches « Vidas pretas importam, les vies noires comptent » montrent que la révolte est bien là.
Merci Marie, c'est important hein, d'entendre les témoignages très forts de ces femmes, des Brésiliennes qui nous disent qu'il faut que cela change à tous les échelons, notamment à l'échelon de l'entreprise. Alors on en parle tout de suite avec Stéphane Engelhardt qui est en ligne avec nous depuis São Paulo également. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Vous êtes le numéro 2 de Carrefour Brésil, hein, secrétaire général du groupe dans le pays. Merci beaucoup hein, d'évoquer la situation avec nous sur Europe 1. Alors cet assassinat, il a été perpétré par deux vigiles sous-traitants de Carrefour, filmé aussi par une responsable du magasin. Il a provoqué une vague d'indignation, on l'a dit, hein, des manifestations dans lesquelles on entend le slogan « Carrefour assassin », donc c'est vraiment très fort, un appel au boycott de la marque, il y a une pétition qui circule, l'action du groupe lundi dernier a chuté à la bourse de Sao Paulo, et dès la semaine dernière, le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, demandait que soit mis en œuvre, je cite, « une revue complète des politiques de formation des collaborateurs et des sous-traitants en matière de sécurité, de respect de la diversité et des valeurs de tolérance ». Et c'est ce que vous avez annoncé cette semaine, hein, un grand plan dans ce sens.
Tout à fait. La première mesure, en fait, ça a été de constituer un comité de personnalités, de 9 personnalités qui sont des activistes, qui sont des spécialistes, qui sont des représentants des communautés noires au Brésil, des représentants de la diversité et qui nous ont aidés à préparer ces premières mesures. Et ce plan, il tient pratiquement en deux rubriques. La première, c'est une nouvelle politique de tolérance zéro sur les questions de racisme et discrimination. Deuxième point, une refonte complète de notre modèle de sécurité chez Carrefour, avec notamment l'internalisation des vigiles dans les magasins de Porto Alegre et Saint-Pilote.
Quand c'est possible, parce que ce n'est pas possible dans tous les États au Brésil, je crois, à cause de la loi. Monsieur Engelhardt, la presse brésilienne s'était fait l'écho de précédents scandales terribles avant celui-là, des agressions racistes et parfois des viols hein, qui ont eu lieu dans des magasins Carrefour. Ce sont des problèmes qui interviennent aussi dans d'autres magasins, ce n'est pas propre à Carrefour. Et du coup, vous avez entendu hein, ces Brésiliennes dans le reportage, notamment la militante des droits de l'homme, elle n'y croit plus, elle demande que tout soit revu de fond en comble et notamment que des Noirs et des femmes noires soient nommées à des postes de responsabilité. Est-ce que vous prévoyez ça aussi?
C'est tout à fait prévu dans notre plan d'action de pouvoir intégrer plus de Noirs, de personnes d'origine noire dans nos effectifs et notamment dans les hiérarchies. Je crois que c'est très important à des postes de responsabilité. Le racisme au Brésil est un problème de société. Les faits se sont passés dans un magasin Carrefour. Nous voulons prendre les devants et donner des réponses à la société brésilienne d'une façon très concrète. Donc ce plan d'action, effectivement, est un début. Un ensemble d'autres mesures à être prises très rapidement aussi.
Quand on entend des témoignages comme ceux de Marine Audacher dans le reportage, on voit qu'une femme, parce qu'elle est noire, n'ose pas entrer dans un magasin et se fait traiter de domestique. Ça semble sauter aux yeux, non? Pourquoi ça n'a pas été possible avant de mettre en place ces mesures?
Nous sommes engagés dans les questions de diversité, de lutte contre le racisme depuis plus d'une dizaine d'années au Brésil, de façon très, très, très marquée, justement sur un problème que nous avons eu en 2009. Donc nous apprenons beaucoup. Ce fait nouveau, de nouveau, montre que nous avons une faille quelque part. Donc ce comité que nous avons créé de personnalités externes doit nous aider à penser comment nous pouvons changer les choses de façon très concrète.
Carrefour est le premier employeur privé étranger au Brésil, je crois, avec 90 000 employés et 700 magasins. Est-ce que vous pensez que le groupe, justement, peut être moteur pour participer à l'émergence d'une société plus égalitaire? Est-ce que c'est aussi votre rôle en tant qu'acteur économique de ce très grand pays?
Alors, tout à fait. C'est ce que nous voulons être et c'est ce que nous allons faire. C'est exactement notre rôle aujourd'hui d'être moteur dans cette transformation de la société.
Certains autres grands groupes semblent vouloir vous emboîter le pas dans ce sens. Est-ce que ça veut dire que c'est le début de quelque chose?
Je pense qu'il y a un mouvement qui effectivement se met en place. Mmh. Les grandes entreprises, tant brésiliennes qu'internationales, se sont mobilisées, se mobilisent, parce que ce qui est arrivé à Porto Alegre peut arriver n'importe où au Brésil. Mmh. Donc je crois vraiment qu'il y a un mouvement qui se met en place et qui ne peut être que salué.
En tout cas, c'est l'espoir émis par le père de João Alberto au moment de ses funérailles la semaine dernière, que la mort de son fils fasse en sorte que la société s'améliore et soit enfin plus égalitaire. Ça passera peut-être notamment par les supermarchés Carrefour. Merci beaucoup Stéphane Angelard d'avoir pris le temps d'évoquer avec nous cette question très délicate au Brésil. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Carrefour dans cet immense pays d'Amérique du Sud. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Et merci à Marie Nodacher à Sao Paulo. Merci Marie, à bientôt.
Merci Sophie.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Vous le savez, désormais, on varie les plaisirs. Une série télé, de la musique et la littérature étrangère pour raconter le monde. Et ce dimanche, place au livre. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Sophie.
Vous nous emmenez en Italie, Nicolas, mais avec un auteur français.
En Italie, et dans l'histoire, et dans le mythe. Bienvenue sur l'île de Monte Cristo.
Comme dans le roman de Dumas.
Absolument. Au passage, c'est en faisant le tour de cette île un jour qu'il a eu l'idée de son roman, Le Comte de Monte Cristo. Mmh. Dans le roman, c'est en deux mots. Monte Cristo, mais en fait, l'île de Monte Cristo s'écrit en un seul mot. Mais de toute façon, je ne vous parle pas du roman, je vous parle de l'île. Enfin, pas moi d'ailleurs, l'auteur, Philippe Di Folco, il publie dans la collection Insulaire des éditions du Trésor. On en avait parlé l'année dernière, déjà, ce sont des petits livres, format carte routière ou maritime plutôt. Quand on la déplie, on a une belle carte avec l'île en question, parce que chaque livre propose une histoire toujours extraordinaire sur une île.
Et l'île de Monte Cristo, à quoi elle ressemble alors ?
C'est un rocher, c'est un caillou dans la mer tyrrhénienne, au large de l'Italie, à 40 km au sud de l'île d'Elbe. C'est une réserve naturelle aujourd'hui. D'ailleurs, le livre s'ouvre sur une description. Superficie 10 km², tout petit. Population 300 chèvres, 0 à 5 humains selon les époques. Langue italien, anglais, sabir, monnaie, ducador, vous allez comprendre pourquoi. Mais malgré cette petite superficie, cette insignifiance même, il émane quelque chose de mystérieux de cette île. Philippe Di Folco, l'auteur du livre.
C'est la plus éloignée de l'archipel toscan, qui comprend donc l'île d'Elbe, etc., pour la plus connue. Et elle est pratiquement circulaire, elle fait 10 km². Elle est difficile d'abord, on ne peut pas y accéder. Alors comment se fait-il qu'au VIe siècle, des moines ont construit un magnifique monastère ? Quand vous abordez l'île, elle ressemble à une sorte de volcan, vous voyez, de montagne un peu tronquée, comme ça. Vous avez cette vision-là en arrivant. Et à part ça, il y a des traces de murs étranges. Il y a beaucoup, beaucoup, effectivement, de mystères qui entourent cette île dès la fin du XVIIIe.
Et que s'est-il passé sur cette île alors ?
Plein de choses, mais en particulier l'arrivée un jour de George Graham Watson Taylor, un Anglais de très bonne famille, et sa femme Victorine, une jeune Auvergnate. Ils décident un jour de s'installer sur cette île. Pour comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière. Mm-hmm. Watson Taylor est le fils d'un homme d'affaires très, mais alors très, très riche, mais mort, soi-disant, dans la dèche la plus totale. En fait, il avait caché sa fortune immense au fisc. Si bien qu'à sa mort, les autorités récupèrent tout et son fils ne touche rien. Il lance une procédure, mais pour l'instant, il est coincé. Je vous la fais courte, il va gagner au bout de quelques années. Il récupère donc une belle somme, il est riche. Il embarque sa femme Victorine dans ce qu'on appelait à l'époque le Grand Tour. On est dans les années 1860. Le Grand Tour, c'était une sorte de voyage initiatique pour riches. On partait en Italie, notamment, à la découverte des merveilles artistiques. Il arrive en Toscane et il devient ami avec des notables et des politiques. C'est là qu'il décide et qu'il obtient le droit, surtout, d'acheter une île, l'île de Monte Cristo.
Et pour y faire quoi s'il n'y a rien dessus ?
Pour y créer justement son monde à lui. Le problème donc, c'est qu'on ne peut pas aborder. Alors qu'à cela ne tienne, il fait creuser le fond pour que les bateaux puissent y accéder. Il fait faire une plage, un embarcadère, etc. Je vous laisse imaginer le prix de travaux comme ça. Mais évidemment, il fait aussi construire une villa magnifique pour y habiter et des jardins botanique et romantique. Il y fait pousser différents types de plantes.
Finalement, il est assez riche, le petit Anglais.
Ah bah oui, le problème, c'est qu'il est très riche, mais même les grandes fortunes ont leurs limites. Sa femme, Victorine, commence à s'inquiéter sérieusement, mais lui, bah, il achète en plus deux bateaux à vapeur pour faire visiter son île, faire venir les gens du Gotha. Oui, mais en Italie, au même moment, ça gronde. C'est la révolte, l'unification avec Cavour, Garibaldi. Bref, le système politique est en train de changer. Je ne vous raconte pas la fin de l'histoire, vous le lirez.
Mais il n'y a donc aucun rapport avec le roman de Dumas?
Eh bien, peut-être que si. C'est sans doute à cause du roman que Watson Taylor s'est entiché de cette île. Philippe Di Folco.
On peut estimer effectivement que Monte Cristo paraissant, et avec le succès qu'on le sait, en 1840, entre 42, 43, 45, 46, il y a des centaines d'éditions, de traductions. Un roman qui est le plus lu en Europe, c'est le best-seller de la fin des années de Louis-Philippe. Et effectivement, tant la femme de Georges, tant lui-même d'ailleurs, puisqu'il devait être francophone, sont imprégnés par ce roman complètement fou, qui est quand même l'histoire d'une vengeance. Et c'est aussi l'histoire d'un déclassé, hein, finalement, Edmond Dantès. Hein. Et je pense que cet homme se reconnaît dans Edmond Dantès.
Et le trésor alors?
Alors, je pourrais vous dire que le trésor, bon, c'est la beauté de l'histoire, et gna gna gna, ouais, et se découvrir soi-même, etc. Mais en fait, je ne vous raconte pas comment, où et pourquoi, mais il y a eu un véritable trésor sur l'île de Monte Cristo, comme dans le roman, un vrai gros et beau trésor en pièces d'or sonnantes et trébuchantes.
À
c'est
découvrir,
dans le livre.
Donc, dans le vrai conte de Monte Cristo, collection insulaire des éditions du Trésor, justement. Et merci voilà. Nicolas, et à très vite, vous revenez pour La Voix et Livre à 14h.
À tout à l'heure.
Et nous, on file au Liban.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Ça fera 4 mois vendredi prochain que Beyrouth était soufflé par une double explosion après l'incendie d'un stock colossal de nitrate d'ammonium. Un blast qui a aggravé un peu plus encore les nombreuses pathologies du Liban. Crise politique, crise économique, crise sanitaire, comme tout le monde, le virus n'est pas une personne. On se souvient des interventions d'Emmanuel Macron, des conditions posées par la communauté internationale, l'aide contre des réformes structurelles. Alors aujourd'hui, dans les carnets, on a choisi de se poser un moment au Liban, voire où en est ce pays dont la France se sent proche. Et on le fait avec un invité qui est en ligne avec nous depuis Beyrouth. Bonjour Sharif Majdalani.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et écrivain. Votre dernier livre s'appelle justement « Beyrouth 2020 », publié cet automne par Actes Sud. C'est un essai, un journal en fait, que vous avez commencé à tenir au début de l'été. Des petites chroniques qui illustrent les multiples maux du Liban, dont l'explosion du port de Beyrouth le 4 août n'est que l'ultime exemple en fait.
Hélas oui, c'est l'ultime exemple. Et quand j'avais commencé à écrire ce journal, je ne pensais pas du tout que ça... Évidemment, personne ne pensait que ça pouvait arriver. Ouais. Et donc l'explosion est arrivée pendant l'écriture. Et je pense qu'effectivement, elle a montré combien la condensation de tous les problèmes que je racontais était telle que ça ne pouvait aboutir qu'à quelque chose de monstrueux. Ouais. Et bien, c'est ce qui est arrivé.
Vous évoquez longuement cette explosion. Restons un petit peu sur ce moment. Hein. Le 4 août, 200 morts, au moins 6500 blessés, près de 300 000 sinistrés, des dégâts considérables dans la ville. Je vous propose, Sharif Majdalani, qu'on écoute quelques témoignages qu'a recueilli Marion Gauthier, qui est avec moi en studio. Bonjour Marion.
Bonjour Sophie.
On se demande où en sont les sinistrés aujourd'hui, ces centaines de milliers de personnes dont les domiciles ou les commerces ont été détruits. L'hiver arrive. Comment sont-ils logés? D'ailleurs, sont-ils tous logés?
Eh bien, tous ceux à qui j'ai parlé m'ont garanti qu'à Beyrouth, il n'y a pas de Libanais sans domicile grâce au cercle familial, aux amis ou simplement à la solidarité nationale. Alors certains habitent encore des appartements ouverts aux quatre vents, mais les plus chanceux se sont fait prêter un logement ou sont partis dans des propriétés secondaires, des solutions seulement provisoire. Prenez Dolly, elle est infirmière. Elle habitait une de ces maisons typiques de Beyrouth, vous savez, celle avec des arcades. Et de cette maison familiale ne restent que les murs fissurés. Toutes les économies de Dolly sont passées dans la location d'une autre maison. Le chauffage pour l'hiver, le frigo, le but à gaz, les ustensiles de cuisine, les vêtements, ce sont des associations qui les lui ont fournis, qui lui distribuent aussi des colis alimentaires.
La réserve, elle a été toute dépensée. Maintenant, on vit au jour le jour. Moi, j'ai 58 ans, j'ai étudié comme infirmière, diplômée. On n'est pas habitué à ça. On n'arrive plus à se débrouiller comme avant. C'est très lourd. Des fois, oui, je me sens seule, des fois, yani, à combattre, si vous voulez, dans cette vie.
Mais Dolly compte les jours avant son retour dans la maison en cours de réparation. Seulement, Les travaux vont prendre du temps parce que ce sont des étudiants ingénieurs qui s'en occupent. Ils ont donc des cours à suivre en parallèle du chantier.
Alors, ils sont nombreux à aider à Beyrouth. Dès le lendemain de l'explosion, des centaines d'habitants sont descendus pour déblayer la ville, pour prêter main forte aux sinistrés. C'est toujours d'actualité ?
Oui, il y a énormément d'associations d'aide, d'ONG. Akram, comme beaucoup d'autres, a lancé sa propre initiative. Il était agent de voyage, mais la crise économique et sanitaire a coulé son commerce. Tout son temps est aujourd'hui dédié à son organisation Achrafieh 2020. Achrafieh, c'est le nom du quartier chrétien. La priorité, c'est d'assurer un toit et des fenêtres fermées pour l'hiver à tous les sinistrés.
On est en train de faire un peu de système D, quoi. On met un double nylon, on met du bois, on met ce qu'on veut, mais de façon à ce qu'il puisse être dedans. Et on travaille 18 heures par jour, même les dimanches.
Et impossible que le pays aille plus mal encore qu'aujourd'hui, c'est ce que dit Akram. La malédiction va finir. Entre deux rénovations, il veut convaincre les Libanais de rester dans leur pays, de rester pour reconstruire Beyrouth.
Vous m'offrez ce que vous voulez, moi je ne bouge pas. Je suis né à Beyrouth, mes ancêtres sont nés là, c'est ma patrie, c'est mon pays et je ne bougerai jamais d'ici.
L'espoir, malgré tout, hein, c'est ce qu'on entend, mais l'aide, la solidarité, Marion, c'est un peu aussi une thérapie parfois.
Oui, et une bénévole m'a confié que le dernier confinement est particulièrement difficile justement parce qu'il limite l'action et toute la rage peut remonter étouffante, tous les souvenirs de l'explosion reviennent en mémoire. Quand elle peut arpenter les rues de Beyrouth, le marteau-piqueur en fond sonore permanent, Lamia est partagée.
On continue de bâtir, mais nous ne voulons plus bâtir. Ce n'est pas au peuple de le faire. Ce gouvernement est en faillite à cause de leur corruption et de leur vol. Nous, on s'est pris en charge. Nous, on soigne nos malades. Nous, on donne à manger aux faim. Ce n'est pas à nous de le faire. Non, non, on ne veut plus. Mais je vous ai dit une chose, on dit et on fait le contraire, c'est ça. Parce qu'on sait qu'on n'a pas le choix. Ils nous ont eu à l'usure. Nous sommes aujourd'hui un peuple usé et fatigué de lutter et de nous reprendre en main et de remonter la pente et de rebâtir le pays et de subir les coups et de s'en sortir. Nous sommes usés.
Sharif Majdalani, vous vivez à Beyrouth d'où vous nous parlez. Les Lamia, Akram, les Dolly, vous les côtoyez. Et on entend à travers ces témoignages tout le paradoxe des Libanais. Ce paradoxe que vous décrivez dans votre livre, ce sont des citoyens qui adorent leur pays, qui agissent, mais qui se disent usés.
Absolument, oui. On est usé des moments où on ne sait vraiment plus à quel sens se vouer parce que nous faisons tout nous-mêmes. Effectivement, vous avez parlé de centaines. En fait, c'est beaucoup plus que des centaines. C'est des dizaines de milliers de bénévoles qui sont descendus dans les rues les lendemains les quelques jours qui ont suivi l'explosion. Et les pouvoirs publics n'existent plus de toute façon. Mais même s'ils avaient existé, ils n'auraient rien fait. On est dans une faillite totale de l'État. Et une fois de plus, effectivement, nous sommes obligés de recommencer. Et ce que a exprimé Lamia, c'est bien Lamia, est parfaitement juste. Et je pense que c'est ce que éprouve chacun d'entre nous. On en a assez, effectivement, notamment de ce terme que nous avons utilisé jusqu'à l'usure et qu'aujourd'hui, je pense, plus aucun d'entre nous ne peut supporter d'entendre, c'est le mot résilience.
Ouais.
On a passé, ça fait 100 ans qu'on recommence et on recommence et on recommence, mais il y a un moment où on se dit, bon, il faut que ça s'arrête. Et malheureusement, ça ne s'arrête pas. Et donc, finalement, comme disait Akram, il faut recommencer. On est bien obligé de recommencer. Mais effectivement, ils nous ont eu.
Ce système D, où ce sont des associations qui distribuent l'aide alimentaire, ce sont des élèves ingénieurs qui rebâtissent. On marche sur la tête, quoi.
Mais oui, tout à fait. Mais les enfants, enfin mes enfants qui ont 18 et 16 ans, sont descendus aider à balayer, à déblayer les premiers jours. Aujourd'hui, c'est des étudiants en architecture qui travaillent à reconstruire. Effectivement, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, ces architectes qui sont là dans la maison. Au début, ils estimaient les dégâts. Et là, maintenant, ils aident à reconstruire. Et tout ce qui se fait avec l'argent, soit des gens qui ont tout perdu et qui avaient un petit peu d'économie. Et faire des économies aujourd'hui avec la crise, c'est extrêmement difficile. Être obligé de les débourser entièrement pour reconstruire, c'est vraiment terrible, quoi. C'est absolument terrible.
Vous parlez de la rage de s'occuper pour évoquer toute cette solidarité qui s'est mise en branle très vite. Mais ça dure.
Écoutez, la rage, en fait, elle est d'abord, au lendemain de l'explosion, il y a une espèce de sidération qu'on n'a réussi à surmonter que par la rage de faire quelque chose, en fait. D'être sur place, le fait d'être chez soi, attendre, à pas comprendre pourquoi ça s'est passé, était terrible. Et donc cette rage s'est exprimée dans le fait de balayer, d'aider à déblayer. Et puis après, évidemment, tout cela est passé. Il n'y a plus grand-chose à faire quand on n'est pas un spécialiste, quand on n'est pas un architecte. Alors, il y a des bénévoles. On peut travailler dans des associations à délivrer de la nourriture, des paquets de savon, etc. Mais le reste, bon, on ne peut plus rien faire. Et là, du coup, on est dans une situation où la rage se transforme en une espèce de sentiment d'impuissance qui augmente la dépression, si vous voulez, en fait. Et je pense que le peuple libanais est déprimé.
Cette explosion, écrivez-vous, ferait presque apparaître les mois qui précèdent comme une période heureuse. Alors qu'il n'en est rien, les mots sont profonds. Poursuivre leur évocation ensemble dans quelques instants, Sharif Majdalani, après une courte pause.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Suite de cette étape libanaise dans les carnets du monde, on est toujours en ligne avec l'écrivain Sharif Majdalani, en ligne depuis la capitale libanaise. Vous êtes l'auteur de Beyrouth 2020, journal d'un effondrement, c'est le sous-titre de votre livre. On évoquait ensemble avant la pause l'explosion du port de Beyrouth début août qui, comme le Covid, vient se rajouter à une situation catastrophique du pays. Vous parlez d'étouffement, Sharif Majdalani, car avant déjà, le Liban était ruiné. Vous évoquez notamment un système bancaire totalement moribond que vous éprouvez alors que vous essayez d'acheter un terrain. C'est un peu un fil rouge dans votre livre.
Oui, écoutez, le système bancaire, il est en faillite. C'était vraiment le grand leurre. C'était l'incroyable escroquerie de tout le système libanais depuis 100 ans. On pensait que tout pouvait s'effondrer sauf les banques. Eh bien, elles ont été les premières à s'effondrer. Et en s'effondrant, elles ont entraîné évidemment toute l'économie du pays et toute la société avec elles. Nous vivons une situation absolument surréaliste. Tous les éléments de la vie quotidienne sont aberrants et abracadabrants.
Ouais. C'en est presque choses... cocasse quelquefois quand vous racontez.
Mais absolument, c'est ubuesque.
Vous essayez d'aller tirer de l'argent pour voir si ça passe. Ah, ça passe pas.
J'arrivais pas à y croire en fait. On le disait, mais ça c'est tout à fait au début. Effectivement, vous dites non, on peut pas vous donner d'argent. Et après donc, il faut vivre quand même. Et alors on passe notre temps à calculer la manière avec laquelle on peut tirer de l'argent, des dollars, des transformer en livres libanais. Et il y a trois taux. Alors vous avez déjà vu un pays dans lequel il y a trois taux de change. C'est invraisemblable.
Et le marché. Chinois.
C'est en permanence comme ça.
Ouais. Oui. On va écouter à nouveau quelques témoignages, si vous voulez bien, que vous avez recueillis, Marion Gauthier, qui témoignent de cet épuisement général qu'on évoquait. Vous disiez dépression, hein, Sharif Majdalani. Les sinistrés doivent eux aussi affronter l'incurie des banques, Marion.
Oui, Marc, par exemple, son restaurant a été pratiquement rayé de la carte par l'explosion. Les banques limitent les retraits, donc son argent est bloqué. Mmh. Il n'a rien pour reconstruire, comme de nombreux Libanais qui subissent la crise économique et la dévaluation de la livre. Leur argent ne vaut plus rien, mais ils gardent le silence et c'est surtout ça qui met Marc en colère. Il parle d'une anesthésie générale.
Le samedi, on est descendu, on était environ 1 million. J'avais le cœur grand, beaucoup d'optimisme. Et ensuite, mardi, une semaine après, on finit par être 3, 4, 5 000 et on se fait tirer dessus à balles caoutchouc et il y a des vraies balles aussi. Et c'est là où je me suis dit non, ça sert à rien. Je ne vais pas me prendre une balle dans l'œil pour une population qui ne veut rien faire.
Et Marc songe à quitter le Liban, il n'est pas le seul. Je vous fais réécouter Lamia, ses deux fils vont émigrer et là, à la rage, à la colère, s'ajoute la frustration, celle de voir les jeunes, l'avenir du Liban claquer la porte, celle de ne plus avoir la force ni de les retenir, ni de leur en vouloir.
Mes enfants ont une nationalité américaine, ils ont un passeport américain et ils ne l'ont jamais utilisé. Jamais, 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 au grand jamais. Ils sont toujours restés au Liban, ils aiment le pays, mais là, aujourd'hui, ils doivent partir. On a tellement de problèmes au quotidien qu'on ne peut pas se projeter. D'ailleurs, les jeunes, ils ne peuvent pas faire des projets parce que chaque quelque temps, nous avons un coup. Mais là, ça, c'était la cerise sur le gâteau, hein. C'est fini, c'est le coup fatal, celui-là.
Et après, on ne sait pas, répète Lamia, plus aucune perspective. Le futur complètement occulté par les manques et l'urgence du présent et une population en manque de tout. C'est facile à corrompre, se désole cette autre Libanaise, Lydia.
Les Libanais, ils suivent. Ils suivent ceux qui leur donnent de l'argent, ils suivent ceux qui leur mettent un peu d'asphalte à côté de la maison. Et donc, je ne vois pas le changement venir comme ça.
Et Lydia est professeure d'histoire, une femme qui se désole que l'opposition soit si divisée, sans leader, puisque chaque manifestant, ou presque, est identifié à une communauté particulière, me dit-elle.
Les Libanais seuls ne peuvent rien faire. Malheureusement, le Liban, c'est un pion, c'est un pays pion, et ça ne dépend pas de nous. Surtout qu'il y a beaucoup de milices qui ont beaucoup de pouvoir. Et ces milices sont vraiment soutenues par les puissances régionales. Donc je ne pense pas qu'on va pouvoir faire grand-chose.
Sharif Majdalani, à propos de ce pouvoir des milices qui verrouillent le pays, vous rappelez dans votre livre que 2020, c'est à la fois la ruine du Liban et le centenaire de sa naissance. Et vous faites cet exercice de remonter la généalogie du désastre. Alors sans rentrer dans les détails de cette phase de l'histoire, il faudra lire le livre, regardez dans le rétroviseur comme vous le faites, c'est l'occasion de toucher du doigt la complexité de la mosaïque communautaire qui compose le Liban et qui le paralyse aujourd'hui.
Oui, je pense que c'est ce qu'on a toujours dit être la richesse du Liban, et c'est le cas, c'est effectivement cette richesse, cette mosaïque de communautés, finalement de cultures aussi qui coexistent, qui vivent, qui échangent. Mais c'est en même temps son malheur, parce qu'on ne peut pas faire autrement que de vivre ensemble, et vivre ensemble est toujours extrêmement compliqué. Maintenant, pour ce qui concerne les milices, vous parlez des milices au pluriel. Aujourd'hui, il n'y a plus de milices au pluriel, il n'y en a plus qu'une seule, c'est la milice du Hezbollah. Les autres sont des partis politiques politique comme n'importe quel, donc n'importe quel pays, qui ne sont pas armés. Et le problème, c'est qu'il y a une seule ministre qui tient tout et qui parle à force des armes. Et parce qu'elle a réussi à mettre un président de la République à sa solde, à la tête du pays, tient et bloque tous les rouages. Et c'est elle qui a bloqué complètement, avec tous ses supplétifs, les fameuses manifestations et donc l'insurrection qui a échoué à cause de ça et aussi certainement à cause de l'absence de véritables leaders charismatiques. On a reconduit en temps de paix les chefs de guerre. Ce sont les chefs de guerre qui sont devenus les gens qui devaient gouverner le pays en temps de paix. Et ces gens-là n'ont qu'une logique, une logique de guerre transformée en logique mafieuse. Et ils ont exagéré les problèmes du Liban éternel. Ils se sont transformés réellement en une espèce d'une bande de repris de justice, d'une certaine manière, qui ont pillé les caisses de l'État, qui n'ont rien fait pour le pays. Et fatalement, on devait en arriver à là, et c'est ce qui est arrivé.
Le système corrompu, vous dites qu'il se maintient aujourd'hui, que l'oligarchie n'a pas changé d'un iota, malgré la mobilisation des Libanais qui a fait tomber le gouvernement, malgré les pressions de la communauté internationale.
Écoutez, on a fait tomber deux gouvernements, ça n'a rien changé. Ouais. Malgré tout ça, mais malgré l'explosion, c'est-à-dire l'explosion a eu lieu et ça n'a rien changé. Ces gens-là n'ont même pas montré un gramme d'empathie avec les gens qui ont été sinistrés, avec leur ville qui a été détruite. Ils sont dans une espèce d'autarcie, ils vivent dans un déni mais complet de la réalité de ce qui se passe, parce qu'ils n'ont qu'un seul but, c'est sauver leurs acquis, leur fortune. Voilà.
Tout ça est assez désespérant. Et pourtant, vous décrivez très bien ce paradoxe libanais. Les paillettes sont toujours là, la fête revient toujours à Beyrouth, comme si the show must go on. Alors, je ne veux pas vous parler de résilience, mais c'est quoi? Du courage? De l'inconscience?
Oui, de l'inconscience, du déni. J'utilise souvent cette expression des gens qui dansent au pied d'un volcan en pensant que le volcan n'explosera jamais. Mais le malheur, c'est que la fête a eu lieu jusqu'au 3 août au soir, en fait. Malgré tout, on continue à faire la fête. Mais à partir du 4 août, la fête s'est arrêtée. Et c'est ça, je pense, l'état du Liban aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus la fête.
Vous arrivez à vous projeter encore?
Dans l'avenir?
Oui.
Très difficilement, très difficilement. L'avenir, pour moi, on est sur le bord d'un gouffre. Il faut avancer parce que l'avenir, c'est forcément d'avancer. Et on est sur le bord de gouffre. Vous avancez, vous tombez. Et je ne vois vraiment pas comment on va s'en sortir. Franchement, je n'ai aucune idée.
Vous croyez encore en la force des Libanais pour passer encore ce cap-là?
Mais oui, bien sûr, je crois dans la force des Libanais. Akram l'a dit tout à l'heure. Je pense que ceux qui construisent aujourd'hui, ceux qui sont encore sur le terrain à bâtir, voient les choses se reconstruire et ont confiance encore. Le problème, c'est qu'on est encore capable de tout reconstruire, mais on a en face de nous ce mastodonte qui est l'oligarchie politique, et elle est tellement enracinée dans les institutions de l'État et partout dans les ministères et les administrations qu'il est difficile d'envisager la manière avec laquelle on pourra la déraciner. C'est ça le problème.
Merci beaucoup. Merci Sharif Majdalani d'avoir passé ce moment avec nous sur Europe 1. Bon courage à vous. Alors, Beyrouth 2020, journal d'un effondrement, c'est Actes Sud qui vous publie. Et ça permet de comprendre la complexité de votre pays. Merci, au revoir.
Merci à vous.
Et merci beaucoup Marion Gauthier qui nous a accompagnés aussi aujourd'hui. À suivre, du Liban, on passe à l'Autistan avec Joseph Chovanec qui nous rejoint.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
On ne se quitte jamais sans avoir fait un petit tour en Autistan avec Joseph Chovanec. Bien sûr, il est en ligne avec nous. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Vous êtes en Belgique. Alors avec vos trois casquettes de philosophe, autiste Asperger et voyageur surtout, vous partagez avec nous votre regard singulier sur le monde avec aujourd'hui des histoires de contrebande.
Mais oui, de lourds secrets. Parfois, Sophie, vous cheminez dans un endroit serein, paradisiaque. Mmh. Et c'est là qu'on vous apprend que vous êtes à l'épicentre même de la contrebande. Mmh. Cela crée un choc intellectuel. Peut-être que les psychologues parleraient de dissonance cognitive. Mmh. Mais peu importe le charabia savant, ces instants restent gravés dans la mémoire. À titre personnel, mon expérience fondatrice, ce furent mes excursions au Baloutchistan. Cette grande région tribale entre Iran, Pakistan et Afghanistan. Imaginez assis à ma gauche au volant un chauffeur et ami Baloutch qui, pendant que défilaient des paysages de rêve, racontait comment à tel endroit son oncle avait été tué par la police, à tel virage son neveu a été exécuté par l'armée, etc. Tous trafiquants de drogue.
Ouais, ça gâche un peu le voyage, j'imagine.
Oui, et ça vous laisse pas toi. Hein. Mais inutile d'aller aussi loin, l'exotisme véritable est parfois tout près de nous. Il y a deux semaines, nous avons parlé de ces bizarreries de frontières entre Belgique et Allemagne, avec cette étroite bande de terre belge, le chemin de fer des Hautes-Fagnes, qui s'enfonce profondément en Allemagne. Et bien cet endroit reste marqué par le souvenir de longues années de contrebande de café.
Je croyais que vous alliez nous parler de contrebande de cigarettes, mais non, du café.
Oui, c'était une autre époque. Après la Seconde Guerre mondiale, le Congo était encore colonie belge. Le café était donc abondant et pas cher en Belgique. À l'inverse, dans l'Allemagne voisine, dévastée par la guerre, le café était un produit de luxe. Il était lourdement taxé. C'était l'une des rares sources de revenus des autorités en place. D'où des armadas de passeurs de café qui se mettaient en route à la tombée de la nuit du côté de la frontière entre les deux pays. Dans certains villages comme à Mützenir, presque toute la population adulte vivait de la contrebande du café. Et aujourd'hui encore, quand on parcourt le chemin de fer des Hauts-de-Fagne, on voit dans les branchages de vieilles tours de garde en bois menaçantes. Difficile de réprimer un fou rire quand on se dit que c'était pour attraper des gens qui portaient des sacs de café.
C'est tours de garde pour surveiller les chemins secrets.
Oui, et parfois, ces choses-là deviennent bien plus lugubres, hein, parlant de chemins secrets. Vendredi dernier, je suis allé me promener dans le nord du Luxembourg. Alors là encore, paysage typique des Hautes-Ardennes, quelques vieilles maisons isolées, forêt, sentiment d'être au bout du monde. Et c'est là que je suis tombé sur une série de panneaux destinés à rappeler un autre épisode du passé. C'est que le nord sauvage du Luxembourg a été pendant la guerre une zone de passage, de cachette des populations qui fuyaient les nazis, hein. Des juifs entre autres, mais pas que. Hein. On peut suivre leur parcours pas après pas. Il fallait franchir le cours d'eau local, la Volz, à l'emplacement du vieux moulin de Massen. Hein. Ensuite, partie la plus délicate, il fallait franchir la voie de chemin de fer, le seul passage vers la Belgique. Et tout est décrit dans le moindre détail sur les panneaux. Hein. Il fallait avec mille précautions ouvrir une porte grinçante hein, près de la gare de Trois-Vierges, sachant que si elle grinçait dans la nuit, c'était fini. Hein. Ensuite, à la frontière même, il y avait une ferme abandonnée, on pouvait attendre le petit jour, etc. On pourrait réécrire l'histoire du monde à partir de ces trafics nocturnes accomplis au péril de la vie de chacun. Et nos petites vies actuelles à côté sont bien pépères, hein, oui. En apparence. Et c'est je vrai. Crois qu'en voyageant, en remettant nos pas dans ceux d'antan, nous pouvons donner un sens et une saveur à notre existence dont nous avons tant besoin. Hein. Ouais. Aucune frontière ne pousse davantage à la contrebande que la frontière de l'âge, selon un poète autrichien Robert Musil.
Merci beaucoup de nous avoir embarqués en tout cas dans ce périple, Joseph. C'est un trajet qu'on fait à pied parce que vous nous avez donné envie là, d'aller voir tous ces panneaux.
À vélo, évidemment.
Non, à vélo, évidemment. J'aurais dû y penser. Merci beaucoup, Joseph. À dimanche prochain.
À tantôt.
Et je remets le masque car l'ami Nicolas Garraud entre dans le studio. Et c'est maintenant son tour de nous raconter le monde en marche à travers la littérature. C'est la fin des Carnets du Monde. Merci de nous avoir accompagnés. Et donc, dans quelques minutes, la voix est libre. Nicolas, quel est le programme ?
Je reçois Célia Lévy qui publie La Tannerie chez Tristram et qui nous emmène dans le monde des centres culturels branchés et la misère de ces mondes-là surtout. Et puis, on visitera la bibliothèque de Miossec, le chouette. Chanteur. Génial.
Bonne émission, on sera à l'écoute, sans faute. Un grand merci à Marc Fréjean qui a réalisé les carnets, à Marion Gauthier qui m'a aidé à les préparer. Ensemble, on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien.